Les séminaires du Collège de France.
Merci d'être restés aussi nombreux. Nous allons donc enchaîner avec un séminaire sur un autre angle de vision sur les invasions biologiques. Celui-ci va être de la biogéographie et nous avons le plaisir d'avoir un expert mondial en biogéographie pour nous. Oui, je te défie de me démontrer le contraire. Boris Leroy, qui travaille donc au Muséum National d'Histoire Naturelle, pas très loin d'ici, et qui est maître de conférence là-bas et avec qui je collabore en fait depuis de nombreuses années sur notamment des problèmes d'invasion biologique. Boris, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Franck, de m'avoir invité pour ce séminaire. Donc là, je vais vous parler des effets des introductions d'espèces sur la biogéographie à travers un exemple spécifique. Hein, c'est celui des poissons d'eau douce sur lesquels j'ai pas mal travaillé. Hop. Donc moi, mon domaine de recherche, c'est la biogéographie des changements globaux. Et donc ça consiste à étudier la géographie des changements de biodiversité. Donc c'est vraiment ce que Franck vous a montré avant, ça rentre dans le cadre de la biogéographie des changements globaux. Donc étudier la géographie des changements de biodiversité en relation avec la géographie des facteurs de changement. Donc c'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de documenter la dynamique des changements de biodiversité, d'essayer de comprendre pourquoi ça change, donc déterminer les facteurs sous-jacents. Par exemple, le changement climatique, c'est un des facteurs de changement de biodiversité. Et ensuite, d'utiliser cette connaissance pour développer des scénarios prédictifs et des indicateurs d'état et de tendance. Et donc, on va utiliser ce savoir pour l'appui derrière aux politiques publiques sur la conservation de la biodiversité. Et donc, le domaine de la biogéographie des changements globaux, il s'inscrit assez bien dans les travaux de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent du GIEC, hein, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, mais cette fois-ci pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et je vous ai mis ici le cadre conceptuel de l'IPBES. Donc, c'est ce qui sert de support à toutes les évaluations internationales sur l'état et les tendances de la biodiversité. C'est ce cadre conceptuel. Et donc, je vais vous l'expliquer rapidement parce que peut-être c'est la première fois que vous le découvrez. Donc, je vais vous le décrire. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Alors, attendez. Oups. Je vais me familiariser avec ça. Il y a différentes couleurs d'écriture, en noir, en vert, en bleu. Donc en noir, ça va être un langage commun qu'on va adopter tous ensemble, donc les scientifiques, les décideurs politiques, la société. On va se comprendre avec ces termes. En vert, ce sont les termes que les scientifiques vont utiliser. Par exemple, la nature, nous les scientifiques, on va appeler ça la biodiversité et les écosystèmes. Et en bleu, ça va être d'autres systèmes de savoir. Donc ce sont des exemples ici, hein, des systèmes de savoir qui ne sont pas académiques ou qui ne sont pas forcément occidentaux, qui vont décrire ces mêmes composantes en fait, de la nature. Et comment on lit ce schéma ? Eh bien, on va le lire en démarrant du haut. Donc notre bonne qualité de vie, elle dépend des bénéfices de la nature à l'homme, donc ce que les scientifiques appellent les biens et les services écosystémiques. Et les bénéfices de la nature à l'homme, ils dépendent de l'état de la nature. Et la nature, elle est en train de changer. Elle change au cours du temps. À cause de quoi ? À cause de facteurs directs de changement de biodiversité, et notamment les facteurs anthropogéniques, donc par exemple le changement climatique ou les invasions biologiques. Et pourquoi on a des facteurs directs de changement de biodiversité ? Eh bien, c'est à cause de facteurs indirects, c'est-à-dire les sociétés humaines, l'économie, la démographie, c'est toutes ces causes-là qui vont générer les facteurs directs de changement de biodiversité. Donc nous, en biogéographie des changements globaux, on va se positionner ici, ici et ici, c'est-à-dire qu'on va étudier comment la nature elle change, pourquoi elle change et qu'est-ce qui explique qu'il y a ces facteurs de changement. Et quand on étudie ça, c'est surtout parce que ce sont nos leviers d'action. Ça permet de comprendre pourquoi on a le changement climatique, pourquoi on a les invasions biologiques, et c'est là-dessus qu'on va agir au niveau des sociétés. Alors dans le domaine, l'approche générale, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on va essentiellement travailler sur ordinateur, et on va étudier la géographie de la biodiversité. Donc on ne va pas pouvoir aller sur le terrain partout, donc ça va être souvent des données agrégées de beaucoup de travaux scientifiques historiques dans des bases de données, et ça va nous donner des informations sur la géographie de la biodiversité. Et ces informations, on va les coupler avec les facteurs de changement, notamment les changements globaux, tels que les changements climatiques, comme Franck l'a montré, ou les invasions biologiques. Et on va coupler tout ça avec des analyses et de la modélisation. Alors, il y a une souris qui se balade sur mon écran. Donc c'est souvent de l'analyse quantitative et de la modélisation statistique qu'on va utiliser pour ça, afin d'obtenir des cartes d'impact, des scénarios d'évolution, des indicateurs qui peuvent derrière servir en appui aux politiques publiques. Et en parallèle, on va étudier les facteurs indirects, comme les facteurs économiques, démographiques, institutionnels, parce que ce sont nos leviers d'action. Et en fait, la connaissance scientifique, c'est aussi un des leviers d'action. Une fois qu'on a la connaissance, on peut derrière agir sur les changements globaux. Donc ma présentation de ce matin, elle va être structurée en trois parties. Donc vraiment centré sur l'effet des invasions biologiques sur la biogéographie, avec le cas des poissons d'eau douce. Et pour que vous compreniez bien quels sont les changements qu'on observe, il faut déjà que vous ayez connaissance de la biogéographie naturelle des poissons d'eau douce. Donc je vais faire une première partie là-dessus. Ensuite, une deuxième partie que j'ai appelée biogéographie de l'anthropocène des poissons d'eau douce, donc la biogéographie contemporaine. Et puis après, on réfléchira un petit peu à ce qui va se passer dans le futur avec tout ça, donc les connaissances, les conséquences macro-évolutives des invasions. Et donc, dans cette présentation, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions que je vais vous lister ici. La première question, c'est quelle est la répartition naturelle de la biodiversité des poissons d'eau douce ? Quels sont les processus naturels qui ont généré cette répartition ? Ensuite, comment l'homme a altéré ces processus naturels ? Et quelles sont les conséquences de cette altération ? Donc, quelle est la répartition des poissons d'eau douce dans l'Anthropocène ? Et puis ensuite, réfléchir, notamment sous forme de questions, sur quelles seront les conséquences pour le futur de la biodiversité des poissons d'eau douce. Donc je vais vous raconter une histoire, et on va remonter un petit peu dans le temps pour découvrir quelle est la biogéographie naturelle des poissons d'eau douce. Et en fait, pour comprendre la répartition naturelle de la biodiversité des poissons d'eau douce, il faut vraiment remonter assez loin dans le temps, il faut remonter jusqu'à 250 millions d'années en arrière. Donc, je vais vous montrer sur une série de trois vidéos très courtes quelle a été l'histoire géologique de la Terre sur les 250 dernières millions d'années. Donc, il y a 250 millions d'années, il y avait sur la Terre le dernier supercontinent à avoir existé, qui s'appelait la Pangée. Et en fait, le fait que ce soit un continent unique, ça faisait qu'il n'y avait pas de barrière océanique et qui permettait donc des événements de dispersion plus ou moins rares au sein de la Pangée, et donc une certaine homogénéité dans les faunes de la Pangée. Alors maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé entre moins 250 et moins 150 millions d'années. Ouvrez vos yeux, la petite animation, ça ne dure pas longtemps. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a environ 150 millions d'années, la Pangée a commencé à éclater en trois grosses masses continentales. Donc la Laurasie holarctique, le Gondwana tropical holotropical et le Gondwana tempéré austral. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ces masses, elles se sont isolées, elles ont été séparées par des océans, ce qui empêchait la dispersion, et donc ça a créé en fait de l'évolution et de la diversification isolée des faunes sur chaque masse, et donc on a commencé à avoir des faunes complètement originales qui ont divergé sur ces différentes masses continentales. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé entre moins 150 et moins 67 millions d'années. On voit que ce processus de fragmentation, il a continué. C'est-à-dire que les masses continentales ont continué à se fragmenter et à s'isoler. Et 70 millions d'années, 80 millions d'années, c'est extrêmement long. Hein, et donc, ça permet vraiment aux faunes et aux flores de diverger dans des directions complètement différentes et de créer des choses complètement originales. Donc, entre moins 150 et moins 67 millions d'années, la Laurasie et le Gondwana ont continué de se séparer, ce qui a abouti à plusieurs masses continentales. Et donc, la séparation de chacune des masses, ça fait vraiment des dizaines de millions d'années de diversification en isolement, ce qui a généré des compositions complètement uniques et distinctes sur chacun de ces continents. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment ? Ça va être la dernière animation, donc ouvrez bien les yeux parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc les masses continentales, elles ont continué de se déplacer, et en fait cette fois-ci elles se sont plutôt, vous voyez, rapprochées. Et donc ça a créé des événements de dispersion assez récents en fait dans l'histoire de la Terre, entre des faunes qui auparavant étaient complètement isolées. Et donc ça a donné ce qu'on appelle les régions biogéographiques. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué sur les diapos de Franck tout à l'heure, il parlait de continents, et les noms, ce n'étaient pas des noms de continents, c'était plutôt ces noms-là qu'il y avait sur ces diapositives. Et c'est ça, c'est les régions biogéographiques, qui sont ces masses continentales qui se sont isolées et qui ont abouti à des choses biologiquement complètement différentes entre ces masses continentales. Donc, on appelle ça les grandes régions biogéographiques. Ce sont des régions de la Terre qui possèdent une composition unique, différente des autres régions. Donc, elles sont illustrées sur cette carte. Et en fait, elles ont été identifiées déjà il y a un siècle et demi. C'est tellement visible qu'avec les données de l'époque, c'était possible déjà de trouver ces régions. Et elles ont été confirmées par la suite et démontrées sur d'autres groupes. Et ces régions, l'hypothèse que l'on a en biogéographie, c'est qu'elles reflètent l'influence omniprésente de la géologie sur l'origine, la diversification et la dispersion des lignées. Donc on les a observées chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les amphibiens, chez les plantes. Donc visiblement, ça touche énormément de groupes d'organismes. Et puis après, il y avait le cas des poissons d'eau douce, où elles n'avaient pas été étudiées dessus. Et en fait, les poissons d'eau douce, ils ont quand même des particularités. Ils ont des capacités de dispersion extrêmement limitées. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes régions ou est-ce qu'on va avoir des patterns peut-être plus précis encore chez les poissons d'eau douce ? Donc en fait, les poissons strictement d'eau douce, je parle ici des poissons qui ne peuvent pas traverser l'océan, ils sont confinés au sein des bassins versants. Donc un bassin versant, c'est quoi ? C'est une zone géographique de ruissellement vers un point unique. Donc c'est un réseau de rivières qui va ruisseler, par exemple, vers l'océan. Donc les bassins versants, naturellement, ils ne sont pas connectés les uns aux autres. Donc le bassin versant de la Loire, il n'est pas connecté au bassin versant de la Seine. Normalement, de manière naturelle, les poissons ne peuvent pas passer de l'un à l'autre. Alors, ils ne peuvent pas passer ? De manière naturelle, si peut-être quand même. En fait, les poissons d'eau douce, ils ont quand même des moyens de passer de proche en proche, d'un bassin versant à un autre, avec différentes possibilités. Par exemple, on peut avoir des eaux souterraines. Donc nous, on ne les voit pas, mais c'est possible de disperser parfois grâce à des eaux souterraines. On peut avoir des phénomènes de capture de rivières ou de ruisseaux. C'est quand on va avoir un phénomène géologique qui va détourner une rivière et donc ça va la faire changer de bassin versant. Et du coup, ça permet la dispersion d'un bassin à un autre pour une espèce de poisson. On peut avoir la fonte des glaces qui va créer de vastes étendues humides. On peut avoir des inondations qui vont connecter des rivières auparavant déconnectées. On peut avoir des phénomènes de confluence lorsque le niveau de la mer diminue. Donc ce que vous avez sur le graphique ici, ce sont différents bassins versants qui sont aujourd'hui déconnectés. Vous avez la limite du niveau de la mer qui est ici, sur le graphique. Sauf que quand il y a des glaciations, le niveau de la mer diminue. Et donc ça va créer de la confluence, ce qui va permettre aux espèces de disperser entre bassins versants par ces phénomènes de confluence. On peut avoir aussi du déplacement par d'autres organismes, par exemple un oiseau qui va attraper un poisson, puis qui, par accident, va le faire tomber un peu plus loin. C'est rare, mais en fait, quand on réfléchit sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'années, en fait, ces événements rares suffisent aux espèces pour qu'elles puissent se disperser sur les continents. Et on peut avoir aussi des déplacements par des événements climatiques extrêmes. Donc, on en parlait tout à l'heure avec la question de madame. Donc, il y a ce qu'on appelle des pluies de poissons. C'est assez rare, mais ça arrive quand même plusieurs fois par siècle. Et ça a été documenté. Hein. Vous avez ici un article dans Science de 1949 qui documente des pluies de poissons. Et c'est quand vous avez un événement climatique extrême qui va soulever une masse d'eau avec tous les organismes dedans et puis les faire retomber plus loin. Mais en fait, ça suffit. Il suffit d'avoir une seule femelle avec des œufs, par exemple, pour permettre une nouvelle population qui va se répandre dans un autre bassin versant. Donc des capacités de dispersion extrêmement limitées, mais quand même des moyens de dispersion sur les continents, et du coup ça nous pose des questions. Est-ce qu'on va observer chez les poissons d'eau douce les mêmes régions que chez les autres organismes chez qui ça a été démontré ? Donc c'est quoi la signature de la tectonique des plaques sur les faunes de poissons d'eau douce, et quelles sont leurs régions biogéographiques ? Alors, comment on étudie ça ? Je vous ai dit, on ne peut pas aller sur le terrain échantillonner chaque bassin versant du monde entier parce que ça nous prendrait trop de temps. Donc on se base sur des travaux qui ont déjà été publiés et qui sont agrégés dans des grandes bases de données. Donc pour ça, on utilise une base de données globale qui a été publiée en 2017 sur les occurrences de poissons d'eau douce dans les bassins versants. Et on va analyser à l'échelle des espèces. On va se contenter de ce niveau phylogénétique. Et on va regarder uniquement les répartitions naturelles non modifiées par les humains. Alors, je ne vais pas vous embêter avec le détail, mais on se concentre vraiment ici sur les poissons strictement d'eau douce, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas se disperser par la mer. Et pour vous donner une idée de la taille de la base de données, on a au total 11 295 espèces de poissons strictement d'eau douce dans le monde entier. On a leur répartition dans 2581 bassins, c'est des espèces de polygones de différentes couleurs que vous voyez ici sur la carte. Et au total, ça nous fait 59 373 occurrences d'espèces dans des bassins versants dans notre base de données. Et comment on détecte les régions biogéographiques ? C'est pareil, je ne vais pas vous embêter, je ne suis pas venu ici pour vous parler de méthodes, même si j'adore ça, moi c'est un des trucs que je préfère. Je vais plutôt vous parler des résultats biologiques. Donc je résume simplement, de manière générale, la méthode. L'idée, c'est d'analyser la composition en espèces de tous les bassins versants du monde entier. et d'essayer de faire des regroupements. Les bassins qui ont les mêmes espèces, qui partagent les mêmes espèces, on va les mettre dans la même région, et quand ce sont des espèces complètement différentes, on va les séparer dans des régions différentes. Donc voilà, c'est de la recherche de groupes de bassins, de manière quantitative, hein, avec des méthodes d'analyse qui ont une composition similaire en espèces, et on appelle ça des méthodes de clustering, hein, c'est très utilisé dans beaucoup de domaines en sciences. Et nous, on utilise une méthode qui est basée sur la théorie des graphes, hein, qui est un peu plus robuste que d'autres méthodes qui existaient auparavant en écologie. Voilà, je ne rentre pas plus que ça en détail dans les méthodes. S'il y en a que ça intéresse beaucoup dans l'Assemblée, sachez que ben, justement, on essaye de publier en sciences ouvertes. On a publié un package qui regroupe toutes les méthodes de biorégionalisation. Si ça vous intéresse, vous avez l'adresse ici et vous l'aurez sur ma diapo finale également. Voilà, je vais plutôt sauter à, je pense, ce qui vous intéresse, c'est quoi la répartition naturelle des poissons d'eau douce, et donc quelles sont les régions biogéographiques naturelles des poissons d'eau douce. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé un premier résultat, un premier niveau de regroupement qui est assez différent des autres organismes, qui est que, en fait, le monde des poissons strictement d'eau douce, il est divisé en deux. Il est divisé en deux grands groupes, ce qu'on a appelé le Nouveau Monde et le Vieux Monde, avec quasiment 100% d'espèces endémiques dans chacun de ces groupes. Donc des espèces endémiques, c'est des espèces qu'on va trouver que dans un seul endroit et on ne va pas les trouver ailleurs. Donc si elles sont endémiques du Vieux Monde, ça veut dire qu'on ne les trouve pas du tout dans le Nouveau Monde à l'état naturel. Donc en fait, on n'a que deux espèces sur les 12 000 espèces de poissons d'eau douce du monde entier, on n'en a que deux qui sont à l'état naturel trouvables sur les deux groupes de continents. C'est le brochet et une autre espèce qui s'appelle, le Catostomus catostomus. On va les trouver au niveau de certains bassins, au niveau de l'Arctique. Et en fait, c'est des événements de dispersion très récents liés aux glaciations. Hein, quand il y a des glaciations, y a des zones de glace qui vont parfois permettre d'avoir un petit peu d'eau douce et qui permettent aux organismes de se disperser. Et les études génétiques suggèrent que ce serait au niveau du détroit de Bering ou via l'Islande que les espèces ont pu se disperser comme ça entre les deux groupes de continents. Donc on a vraiment cette division en deux du monde des poissons d'eau douce, et à l'état naturel, il n'y a aucune espèce à part ces deux-là qu'on peut trouver sur ces deux groupes de continents en même temps. Maintenant, au sein de ces super régions, on trouve un deuxième niveau de regroupement, et là, en fait, on a trouvé exactement les mêmes régions que chez les autres groupes d'organismes, les six grandes régions biogéographiques. Hein, donc, le néarctique, c'est l'Amérique du Nord. Le néotropical, c'est l'Amérique du Sud. L'éthiopien ou afrotropical, selon les auteurs, ça va être l'Afrique. Le paléarctique, c'est l'Europe et l'Asie. Enfin, l'Asie du Nord, pardon. Le sino-oriental, c'est l'Asie du Sud-Est. Et l'Australien, donc la zone australienne. Donc, des résultats similaires aux autres groupes taxonomiques qui illustrent ce qu'on s'attendait, c'est que la géologie, elle a aussi façonné les faunes de poissons d'eau douce. On a malgré tout une différence assez importante avec les autres groupes d'organismes, c'est le taux d'endémisme. C'est le pourcentage d'espèces de poissons d'eau douce qu'on va trouver que dans une région et dans aucune autre région. Et vous voyez qu'on est sur des taux qui sont au minimum à 88% et ça monte jusqu'à plus de 99% suivant les régions. Et par rapport aux autres groupes d'organismes, les taux d'endémisme des poissons d'eau douce sont beaucoup plus élevés. Chez les mammifères, on est sur toutes les régions, ça va de 31 au minimum à 90%. Chez les oiseaux, de 11 à 84%. C'est plus faible chez les oiseaux, c'est normal, hein, ils dispersent, ils peuvent voler, donc forcément ils dispersent plus, donc il y a moins d'endémisme. Chez les amphibiens, 46 à 98%. Et donc, ce taux d'endémisme extrêmement élevé, il va induire une grande vulnérabilité aux changements globaux, parce que les poissons, ils sont plus naïfs, ils sont dans leur originalité, ils sont dans leur composition, et ils connaissent moins, en fait, les faunes des autres continents. Ils sont beaucoup plus naïfs, et ça va jouer. Si on prend un peu de recul, en fait, et qu'on regarde l'ensemble des espèces de poissons d'eau douce du monde entier, donc 11 295 espèces, il n'y en a que 85 qu'on peut trouver naturellement dans deux régions. Ça veut dire que tous les autres poissons, ils existent que dans une seule région et ils n'ont jamais traversé les barrières géographiques entre les régions. Puis, les humains sont arrivés. Et donc, j'en viens à ma deuxième partie, qui est la biogéographie de l'Anthropocène des poissons d'eau douce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les humains? Eh bien, c'est ce que Franck Sévertu a vous démontré depuis le début de ses cours, c'est-à-dire qu'on a commencé à déplacer beaucoup de choses, en fait. On a commencé à déplacer les espèces et à changer donc des choses qui ont mis des millions d'années à se former. Donc c'est ce qu'on appelle les invasions biologiques, c'est l'un des 5 grands facteurs de changement direct de biodiversité. Alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que vous en avez déjà eu énormément, j'ai juste remis une définition, transport et introduction volontaire ou involontaire d'espèces hors de leur aire native. Et donc ce transport et l'introduction d'espèces hors de son aire native, ça amène à ce qu'on appelle une espèce exotique. Parmi les espèces exotiques, une petite partie va pouvoir s'établir, survivre, se reproduire, on appelle ça une espèce exotique établie. Et parmi les espèces exotiques établies, une petite partie va se propager et avoir des impacts. On appelle ça des espèces exotiques envahissantes. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui explique les invasions biologiques ? Donc on va se concentrer vraiment sur les poissons d'eau douce ici. Donc c'est-à-dire les facteurs indirects de changement de biodiversité dans le sens du cadre conceptuel de l'IPBS que je vous ai montré au début, hein, parce que ce sont nos leviers d'action. Comprendre ce qui explique les invasions, c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir en majorité. Et donc qu'est-ce qui explique les invasions biologiques de poissons d'eau douce ? Eh bien, on va remonter cette fois-ci un peu moins loin dans le temps. On va remonter il y a 2 siècles, hein, au muséum et ailleurs dans le monde, mais ça a commencé, un des premiers, ça a été au muséum. Ça a été les sociétés d'acclimatation, en fait. Où l'objectif, hein, c'était d'acclimater des animaux et des plantes depuis les colonies et vers les colonies. Et ça a abouti à des introductions qui étaient parfois délibérées ou parfois accidentelles. Donc là, vous avez des illustrations qui datent de l'époque, notamment pour faire de la publicité pour l'ouverture de ces jardins d'acclimatation, par exemple, au muséum. Et vous avez ici le règlement constitutif de la société d'acclimatation du muséum, qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui s'appelle Société de protection de la nature et d'acclimatation. Le but de la société est de concourir à l'introduction, à l'acclimatation et à la domestication des espèces d'animaux utiles ou d'ornement, et au perfectionnement et à la multiplication des races nouvellement introduites ou domestiques. Donc c'était vraiment dans les objectifs, et ça a commencé à peu près à ce moment-là, les introductions de poissons d'eau douce. Sur ce graphique, vous avez sur l'axe X, ben, les 200 dernières années, hein, jusque l'an 2000, et sur l'axe Y, vous avez le nombre d'introductions. Et donc vous voyez que ben, ça a augmenté, et ça a démarré à peu près au moment des sociétés d'acclimatation, mais ça a démarré doucement au début. Et en fait, on a surtout eu un espèce de point de rupture en 1947 avec une accélération et une globalisation des origines et des destinations des introductions. Et donc, pourquoi il y a eu cette accélération ? Et bien, c'est lié aux échanges commerciaux. Et donc, pour comprendre ça, il faut regarder les voies d'introduction. Et donc, je vais vous parler un petit peu des différentes voies d'introduction de poissons d'eau douce ici. Donc sur le tableau que vous avez à gauche ici, vous avez les différentes voies d'introduction. Par exemple, j'ai parlé des sociétés d'acclimatation ici. Sur la colonne du milieu, vous avez le degré d'importance dans les introductions et les invasions biologiques. Donc plus il y a de carrés, plus ça a été important, et moins il y a de carrés, c'était moins important. Et ensuite, vous avez la tendance future qui est attendue pour ces voies d'introduction. Est-ce que ça va augmenter ou pas, ou est-ce que ça va diminuer ? Et du coup, il faut forcément s'intéresser aux voies qui vont augmenter, parce que c'est là-dessus qu'il faut le plus agir si on veut réduire les invasions biologiques. Alors, la première voie d'introduction, c'est l'aquaculture, c'est l'élevage et le transport de poissons. Et en fait, ça correspond à 42% des populations établies dans la nature. Elles sont dues à l'aquaculture. Et ça, on le sait, encore une fois, grâce à des grandes bases de données qui agrègent énormément de travaux scientifiques, notamment la base de données Fishbase, hein, qui est disponible en libre accès. Vous tapez sur un moteur de recherche Fishbase, vous pouvez y accéder. Vous aurez des infos sur tous les poissons, eau douce ou d'eau marine du monde entier. Comment on passe de l'aquaculture à une introduction d'espèces ? Eh ben, ça peut être de l'évasion de poissons durant l'élevage ou le transport, par exemple. Ça peut être de l'aquaculture dont l'objectif est l'empoissonnement, c'est-à-dire d'introduire des poissons dans le milieu naturel, par exemple pour la pêche, pour renforcer les populations. Et donc, on peut avoir un relâché qui va être volontaire ou alors accidentel, parce que quand on élève des poissons dans l'aquaculture, il y a souvent des espèces qui ne sont pas celles qu'on veut élever, mais qui sont quand même présentes dans les aquariums, et donc elles peuvent être relâchées au moment où on fait de l'empoissonnement. Et puis après, il y a la problématique des abandons d'élevage. L'entreprise fait faillite. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ça peut partir d'un bon sentiment. Les gens ne veulent pas tuer les poissons, donc ils les relâchent dans la nature. Ou alors, tout simplement, c'est laissé à l'abandon. Et puis, certains individus arrivent à s'échapper. La deuxième voie d'introduction principale, c'est le commerce ornemental, l'aquariophilie et l'élevage récréatif de poissons ornementaux. Donc là, il y a 17% des populations établies qui sont dues au commerce ornemental. Et en fait, ça sélectionne certaines espèces en particulier, parce qu'elles sont plus jolies souvent, donc on va plutôt cibler des poissons ornementaux. Donc le commerce ornemental, c'est 90% de poissons d'origine tropicale. Et donc c'est vraiment certains types d'espèces qui vont être choisies et donc qui risquent d'être introduites derrière dans les milieux naturels. Et en fait, l'introduction, bah, c'est souvent des relâchés qui sont volontaires ou involontaires, hein, ça peut être accidentel, ou comme je vous disais, ça part d'un bon sentiment, on ne peut plus garder les poissons, on ne veut pas les tuer, donc on va les relâcher dans le milieu naturel, sans avoir conscience des conséquences dramatiques pour les écosystèmes derrière. Et donc le commerce ornemental, c'est en augmentation, mais il y a quand même pas mal de régulations hein, pour éviter justement ce problème des invasions. Mais il y a une menace émergente aujourd'hui, c'est le commerce en ligne, qui lui n'est pas du tout régulé. Et c'est possible aujourd'hui d'acheter des poissons ou des œufs de poissons qui viennent de l'autre bout de la planète. Et d'ailleurs, c'est pas que des poissons le problème, c'est vraiment le commerce en ligne, c'est un problème pour tous les groupes taxonomiques, sur tous les insectes, sur tous les invertébrés, où on va avoir une augmentation de la diversité des espèces qui vont être échangées avec moins de contrôle, et du coup une augmentation des échanges d'espèces illégales qui peuvent être des espèces protégées ou invasives, hein, qui du coup par les canaux traditionnels économiques ne pouvaient pas passer. Ensuite, en troisième facteur, on va avoir la pêche à la ligne et le relâcher d'appât dans la pêche récréative. Ça correspond à 14% des populations établies. Et c'était lié bah, simplement à la croyance que le relâcher d'appât, il est bénéfique pour l'écosystème. Hein. On va nourrir les poissons qu'on veut pêcher, donc ça va être mieux. Sauf que souvent, les appâts, c'était des espèces envahissantes. Et donc, du coup, les conséquences sont négatives pour les écosystèmes. La pêche à la ligne et le relâcher d'appât, c'est souvent une cause d'introduction intra-région. C'est pas ce qui va expliquer qu'il y a des transferts d'Amérique du Nord en Europe, par exemple. C'est plutôt au sein de l'Amérique du Nord, de proche en proche, on va introduire et donc homogénéiser toute la faune d'Amérique du Nord ou d'Europe. Facteur suivant, c'est la lutte biologique. C'est l'introduction d'espèces pour lutter contre d'autres espèces qui sont supposées nuisibles. Et ça correspond à 9% des populations établies. Donc les risques ils sont bien connus pour la lutte biologique aujourd'hui, le cadre légal il est renforcé, donc c'est un facteur qui ne devrait pas augmenter normalement dans le futur, mais on a toujours des pratiques individuelles qui continuent et qui sont difficiles à mesurer, hein. C'est le cas notamment pour les gambusies. Donc les gambusies, le nom anglais pour les appeler c'est mosquito fish, donc les poissons moustiques, parce qu'en fait ils mangent beaucoup les larves de moustiques, donc c'est énormément reproduit et introduit ces espèces-là, mais le problème c'est qu'elles s'intéressent aussi à tout le reste de l'écosystème et elles ont des gros impacts négatifs sur les écosystèmes dans lesquels on les introduit. Après, on a l'empoisonnement. Donc l'empoisonnement, je vous ai parlé de l'empoisonnement avec l'aquaculture, mais ça peut être aussi prendre des poissons d'un endroit et les amener ailleurs pour renforcer les populations naturelles. Et donc ça correspond à 7% des populations établies. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a probablement beaucoup d'empoisonnement illégal, mais c'est difficile à mesurer. Mais en fait, les conséquences, elles peuvent être absolument dramatiques parce qu'il suffit d'une anecdote pour changer de manière irréversible certains écosystèmes. Et une anecdote, je vais vous en raconter une, qui est assez impressionnante. C'est cet homme-là, Stuart Smith, surnommé The Liberator en Nouvelle-Zélande, qui a passé sa vie à élever des poissons non natifs de Nouvelle-Zélande et à les relâcher dans les rivières et dans les étangs de Nouvelle-Zélande. Et donc il est considéré responsable de plus de 15 000 introductions de poissons non natifs en Nouvelle-Zélande, peut-être beaucoup plus parce qu'en fait c'est difficile de savoir tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il s'est fait arrêter plusieurs fois, il a fait de la prison, interdiction d'élevage, etc. Mais jusqu'à sa mort, on a retrouvé des aquariums chez lui avec des centaines de poissons dedans. Et donc pour lui, c'était positif en fait pour la Nouvelle-Zélande, d'enrichir les rivières. Sauf que à lui tout seul, il a vraiment changé de manière irréversible les écosystèmes d'eau douce de Nouvelle-Zélande et ça cause des extinctions d'espèces et puis des espèces invasives qui ont des impacts sur tous les composants des écosystèmes aquatiques. Donc une anecdote, mais aux conséquences qui sont beaucoup plus importantes. Voie d'introduction suivante, ça va être les eaux de ballast. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que normalement vous en avez déjà entendu parler dans deux cours différents. C'est l'absorption et le rejet de grands volumes d'eau pour la stabilité des bateaux. C'est une probable source historique pour les eaux douces, mais bon, aujourd'hui il y a des régulations qui font que c'est un facteur qui est moins important. Notamment, on est obligé de vider les eaux douces au milieu de l'océan pour tuer les organismes et donc ça évite justement les introductions entre les continents. Et dernière voie d'introduction dont je vais vous parler, je ne vais pas toutes vous les faire, c'est les connexions entre les voies d'eau Et donc, c'est la création de canaux qui connectent des rivières auparavant déconnectées. Et ça, c'est évidemment un facteur assez important, à la fois d'introduction, donc ça permet aux espèces de se répandre là où elles n'avaient pas accès auparavant, et aussi et surtout d'expansion d'espèces introduites. Et je vais vous donner l'exemple du Rhin, le bassin versant du Rhin. La surface des eaux connectées au Rhin, elle a été multipliée par 21,6 en 200 ans. Et donc, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas, pour un poisson qui, à la base, était dans la Loire, il est possible de passer par les canaux de proche en proche. Donc, sur ce graphique, vous avez tous les bassins versants d'Europe. Et en rouge, vous avez les canaux qui ont été ouverts pour connecter les bassins versants. Et vous avez la date de création des canaux. Donc, vous voyez que ça remonte à 1700. Il y a des canaux assez anciens qui ont été créés. Et donc, pour un poisson de la Loire, aujourd'hui, c'est possible d'aller jusqu'au Nièvre en passant de proche en proche par tous les canaux qui connectent tous les bassins versants. Et ça, c'est assez inédit, en fait, pour l'histoire des poissons d'eau douce. C'est avant, il y a 400 ans, ils ne connaissaient pas ce système de dispersion facile entre les bassins versants. Donc, on a vraiment changé les règles du jeu de manière très importante. Et donc, toutes ces introductions, ça mène à des invasions biologiques et ça a des impacts. Et je vous fais juste une slide sur les impacts parce que vous avez eu déjà beaucoup de cours là-dessus, notamment les cours 2 et 3, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est quoi les impacts qu'ont ces introductions? Le premier impact, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose qui parle en général. C'est vraiment, ça fait des dégâts économiques importants, par exemple sur la pêche, sur l'aquaculture, etc. Donc, on sait qu'il y a des coûts économiques importants, mais sous-estimés. Si ça vous intéresse, les coûts économiques, vous avez ici une adresse où vous pouvez, avec une interface graphique, analyser les résultats des coûts économiques des invasions. Je vous remettrai l'adresse sur la dernière slide. Et puis aussi et surtout, des impacts écologiques majeurs. Donc c'est pareil, c'est aujourd'hui en science établi mais incomplet. On sait qu'on a toujours beaucoup de lacunes. Par exemple, c'est le cas du goujon asiatique qui a été introduit en Europe et qui est porteur sain de l'agent rosette. C'est un espèce de champignon. Donc porteur sain, ça veut dire que lui, il n'est pas vraiment affecté par le parasite. Mais par contre, il va le répandre à tous les poissons natifs dans les rivières dans lesquelles il est introduit. Et ça crée des disparitions d'espèces natives. Donc ce que vous avez sur le graphe ici, c'est en gros l'abondance des espèces, de trois espèces de poissons natifs au cours du temps, après l'introduction du goujon asiatique. Et vous voyez que les trois espèces se cassent la figure à cause notamment du parasite que le poisson amène. Les impacts écologiques, c'est quelque chose de très important. On n'a pas encore de synthèse dans la littérature de tous les impacts. Et du coup, c'est pour ça qu'on mène en ce moment avec Franck un gros projet pour essayer de synthétiser tous les impacts écologiques sur tous les écosystèmes dans le projet Invapact. Peut-être qu'on vous en parlera dans quelques années. En tout cas, c'est en cours. Je vais plutôt revenir au sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire la biogéographie et donc savoir comment la biogéographie a changé à cause de toutes ces introductions. Donc comment on va faire ça? Et bien on va faire ça de la même manière qu'on a analysé nos répartitions naturelles. Donc on va reprendre notre base de données sur les poissons d'eau douce, mais cette fois-ci, on va également inclure les informations sur les répartitions introduites et établies des espèces. Ça nous permet de voir du coup les répartitions contemporaines d'espèces après modification par l'homme. Donc on va comparer les répartitions naturelles par rapport aux répartitions contemporaines avec les introductions, et c'est ça que j'appelle la biogéographie de l'anthropocène. Je reviendrai sur le terme anthropocène après. Donc ça représente quoi de manière quantitative? Ça représente 453 espèces introduites et établies. Donc c'est à peu près 4% du total des espèces de poissons d'eau douce qu'on a déplacées un peu partout dans le monde, et 6200 événements d'introduction documentés. Comment on va analyser ça? On va utiliser les mêmes méthodes d'analyse pour étudier les régions de l'anthropocène par rapport aux régions naturelles et on va comparer le résultat. Alors, comment les introductions modifient les répartitions de poissons d'eau douce? Je vous laisse réfléchir deux secondes sur ce graphe. Pour ça, on peut peut-être commencer par regarder les flux d'introduction. Ça vient de où et ça va où? Et donc c'est ce que ce graphe représente. Vous avez sur l'axe Y le nombre d'introductions en fonction de l'origine et de la destination. Donc ce sont les régions biogéographiques naturelles, régions d'origine, régions de destination. Donc la première chose qu'on observe sur ce graphe, c'est que le gros des introductions ici, il se passe au sein de la même région. Donc du néarctique vers le néarctique, du paléarctique vers le paléarctique. Donc il y a vraiment ce premier phénomène, c'est qu'il y a une homogénéisation au sein des continents. Auparavant, on avait des sous-régions, on avait vraiment de l'originalité entre les bassins versants au sein des continents. Et aujourd'hui, en fait, on a quelque chose d'assez homogène partout à cause des introductions intra-régions. Deuxième élément important qu'on peut noter, c'est qu'il y a trois régions qui sont donneuses, receveuses majoritaires, donc le Néarctique, le Palearctique et le Sino-Oriental, qui est introduit essentiellement dans le Néarctique, le Palearctique et le Sino-Oriental. Et pourquoi on a ça? Et bien, c'est à cause des voies d'introduction que je vous ai mentionnées précédemment. C'est le commerce international, et donc c'est ce que ça reflète. Hein. Les introductions reflètent le commerce international. On peut noter aussi certaines régions qui ne sont pas du tout donneuses d'espèces, comme l'Australien. C'est en fait une région qui est assez pauvre à la base en espèces de poissons d'eau douce et qui a reçu énormément d'introductions. Alors, quelles sont les conséquences? Si je me place dans un bassin versant individuel, comment ça a changé, du coup, à cause de ces introductions? Est-ce que c'est important, ces changements, ou en fait, c'est pas beaucoup? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur ce graphe. Donc, sur ce graphe, vous avez sur l'axe X le pourcentage d'espèces endémiques par bassin versant. Donc, endémique, ça veut dire que l'espèce, elle est que dans cette région, dans aucune autre région. Sur l'axe Y, vous avez nos différentes régions biogéographiques. Et ensuite, vous avez les valeurs à l'état naturel, en bleu, et les valeurs contemporaines, en rouge, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'on a une chute du taux d'endémisme dans chaque bassin versant. Et donc, si je me place, je ne sais pas, dans le Palearctique, donc en Europe, auparavant, à l'état naturel, on avait de l'ordre de 65% à peu près d'endémisme. Si je prenais n'importe quel bassin versant, j'avais deux tiers d'espèces qui étaient endémiques dans ce bassin versant. Et suite aux introductions, eh ben, on tombe à moins d'un tiers d'espèces endémiques dans chaque bassin versant. Et donc ça, c'est pareil dans toutes les régions du monde, mais certaines régions sont plus affectées d'autres, évidemment, hein, c'est les régions qui ont le plus d'introduction et donc le plus de commerce international. Et donc on peut se poser la question, bah, c'est quoi l'effet sur les régions biogéographiques? Est-ce que ça a changé les patterns naturels que je vous ai montrés au début ou pas? On peut reformuler cette question en fait, comment les humains ont redessiné la géographie de la biodiversité. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer sur cette carte maintenant. Voici les régions biogéographiques de l'Anthropocène. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que le fait que le monde des poissons d'eau douce, il est divisé en deux, le vieux monde et le nouveau monde, c'est de l'histoire ancienne. On ne peut plus le détecter aujourd'hui, parce qu'on a trop d'échanges d'espèces entre les régions. Les régions naturelles, les six grandes régions naturelles de poissons d'eau douce, on ne peut plus les détecter aujourd'hui non plus, parce qu'il y a trop d'homogénéisation entre les continents. Et à la place, on va observer cette grande région violette ici, qui touche tous les continents, qu'on a appelé Pangéa. Je vais vous expliquer pourquoi on l'a appelé Pangéa après. Et donc, cette région, qu'est-ce qu'elle représente? En fait, elle représente qu'il y a un ensemble commun d'espèces introduites qui sont sur tous les continents, dans tous les bassins versants. Et c'est ça que reflète cette région ici. Et ce que vous ne voyez pas sur la carte, mais c'est un autre phénomène qu'on a observé énormément, c'est l'uniformisation au sein des régions. C'est-à-dire qu'auparavant, même en Europe, si on regardait deux bassins versants différents, on avait des faunes assez différentes. Et aujourd'hui, en fait, tout est à peu près similaire. Il y a beaucoup moins de différences détectables qu'auparavant. Alors pourquoi Pangéa? Pourquoi l'avoir appelé Pangéa? Pangéa, c'est l'acronyme du coup pour dire Pan-Anthropocénien Global North and East Asia. Et donc, c'est pendant l'Anthropocénien, c'est parce que cette région, elle touche tous les continents. En fait, tous les continents sont touchés. Il y a eu des introductions partout. Et du coup, cette région, elle est trouvable sur tous les continents. Mais elle reflète essentiellement les principaux échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Hein. C'est le Nord global et l'Asie de l'Est. Hein. C'est vraiment ce que représente cette super région qui regroupe tous les principaux pays de l'OCDE, en fait. Hein. Et en fait, ce nom Pangéa, on ne l'a pas choisi au hasard, hein, c'est un anagramme de Pangéa. Donc la Pangée, le dernier supercontinent sur lequel la dispersion était possible. Et c'est pour illustrer justement le fait qu'on est en train de recréer artificiellement les conditions d'un supercontinent sur lequel la dispersion est possible, ce qui est complètement inédit dans l'histoire de la Terre. Et donc tout ça, bah, ça contribue au débat sur l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas établi dans la science, c'est quelque chose qui est débattu. Donc c'est un concept qui est débattu dans la communauté scientifique pour représenter, selon les auteurs, selon ce que défendent les gens, soit une époque, soit une période, soit un événement géologique dans lequel les humains deviennent une force géologique majeure. Il y a cette idée toujours, hein, c'est que les humains deviennent une force géologique majeure. Après, est-ce que c'est une période ou un événement? Ça, c'est ouvert au débat. Et comment on analyse justement les événements historiques ou les périodes historiques géologiques? Souvent on l'analyse avec le registre fossile. C'est les changements dans le registre fossile qui permettent de distinguer des changements d'époque. Et si on réfléchit un petit peu par rapport aux résultats que je vous ai montrés sur les régions naturelles, en fait, les régions de poissons d'eau douce, elles sont isolées depuis extrêmement longtemps, hein, depuis le paléogène, et elles n'ont eu que très peu d'échanges durant le néogène et après. Donc c'est vraiment énormément d'endémisme, ça veut dire qu'il va y avoir des fossiles complètement uniques dans chacune de ces régions, et qu'on ne va pas trouver dans les autres régions. Donc chaque région possède une composition propre aux fossiles, avec un très fort endémisme dans chacune de ces régions. Et on est en train de changer ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de changer le registre fossile de manière extrêmement importante. Donc les introductions, elles vont modifier le registre fossile sur un temps très court, hein, à partir de 1800, mais surtout à partir de 1947. Et qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va se traduire dans le registre fossile? Eh bien, ça va amener à avoir des fossiles communs entre les continents. Et ça, c'est complètement inédit dans l'histoire récente de la Terre, en tout cas. Donc je vais vous illustrer un petit peu ces changements qui sont attendus dans le registre fossile, hein, en revenant sur ma carte de tout à l'heure. Donc c'est la carte ici des régions de l'Anthropocène, et vous voyez que j'ai mis en évidence certains bassins versants sur cette carte. Donc vous avez le bassin du Mississippi, le Danube, vous avez le Mekong, Murray Darling, le Zambézi et le Parana. Et pourquoi j'ai choisi ces bassins versants? Eh bien, c'est parce que ce sont des bassins versants qui ont des caractéristiques qui favorisent la fossilisation. On sait que la fossilisation se passe beaucoup dans ces bassins versants, notamment parce qu'il y a des rivières anabranches, c'est des rivières qui vont faire plein de branches différentes, et ce qui va créer, ça va s'assécher et créer de la sédimentation et retenir les restes fossiles des poissons, donc des crânes, des écailles, des otolithes, des arêtes, etc. Et en fait, on introduit des espèces, et ces espèces, elles peuvent devenir invasives, et quand elles deviennent invasives, souvent elles sont hyper abondantes. Et si elles sont hyper abondantes, elles ont beaucoup plus de chances de laisser des restes fossiles dans le registre fossile. Et donc c'est ce que j'ai illustré sur les étiquettes de chacun de ces bassins versants là. C'est un petit peu les espèces qu'on va voir, qu'on va retrouver dans le registre fossile dans le futur. On a les poissons rouges, hein, qui ont été introduits quasiment partout dans le monde. On a des carpes, différentes espèces de carpes qui viennent de différentes régions, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie, qui ont été introduites un peu partout. On a les gambusies, mosquito fish, hein, je vous ai dit, les poissons introduits pour la lutte biologique contre les moustiques. Ceux-là, vous allez les retrouver aujourd'hui. Alors, ils sont originaires d'Amérique centrale, et vous allez les retrouver sur tous les continents aujourd'hui, les gambusies. On a des tilapias, c'est des poissons d'Afrique qui sont souvent introduits pour l'aquaculture et qui se retrouvent dans les milieux naturels sur tous les continents aujourd'hui. Et puis on a les guppies, hein, commerce ornemental, qui viennent d'Amérique du Sud et qui peuvent avoir été aussi introduits. Donc ils ne sont pas originaires du Parana, mais ils ont été introduits dans le Parana. Donc ça, ce que vous avez, c'est un échantillon, en fait, sur cette carte, c'est un échantillon de ce qu'on va retrouver dans le futur, dans le registre fossile, à cause des introductions. Et ça, ça va être des changements qui vont être importants et qui sont inédits dans l'histoire de la Terre. On va prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc ce que je vous ai dit au tout début de ma présentation, c'est que les régions biogéographiques, elles reflètent l'influence omniprésente des forces géologiques naturelles sur l'origine, la diversification et la dispersion des lignées. Et en fait, l'altération globale des régions biogéographiques que je vous ai montrées là, c'est une preuve supplémentaire que l'espèce humaine, elle surpasse les forces géologiques naturelles, donc la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on casse ces barrières naturelles, on casse la barrière naturelle des océans, et on permet aux espèces de se répandre entre les continents. Donc on est en train de recréer de manière nouvelle, une nouvelle Pangée dans l'histoire de la Terre. Et donc, si on se projette dans le futur, dans des millions d'années, les paléontologues du futur, ils liront dans les strates fossiles que la dispersion globale est à nouveau devenue possible pendant un temps très court, hein, le temps durant lequel les humains étaient sur la Terre. Ça va probablement s'arrêter une fois que nos sociétés se seront effondrées. Et du coup, j'en viens à ma troisième partie où on va réfléchir un petit peu à quoi tout ça va mener dans très longtemps. Donc, dans très longtemps, les conséquences macroévolutives des invasions. Et là, tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est des travaux publiés, c'est établi dans la littérature. Mais par contre, là, on va placer plutôt sur une section où c'est des questions que j'amène. C'est du spéculatif, et c'est-à-dire que c'est des questions auxquelles il est extrêmement difficile de répondre, et auxquelles, pour l'instant, en tant que scientifique, on n'a pas la réponse. Mais je vous pose aussi la question, est-ce que ça vaut le coup de se poser ces questions? Et donc, je terminerai là-dessus, justement, ma présentation. Donc, la question que je pose ici, c'est comment avons-nous, ou alors comment sommes-nous en train de, ou comment allons-nous façonner le futur de la biodiversité des poissons d'eau douce. Donc on va essayer de réfléchir à ça avec un cadre spéculatif, un cadre conceptuel spéculatif, hein, parce que forcément on ne peut pas se baser sur des données pour réfléchir sur ce qui va se passer dans des millions d'années. Donc on est vraiment dans de la spéculation, hein, mais on fait beaucoup de spéculation en science, c'est des hypothèses, on réfléchit et ça nous amène derrière souvent à des expérimentations. Là je veux qu'on réfléchisse, ça va être quoi les conséquences macroévolutives de toutes ces introductions. Donc pour ça, on va faire deux scénarios. Un scénario avec un monde sans les humains, et puis après le scénario dans lequel on vit, c'est le monde avec les humains. On va remonter au début de la période géologique actuelle, hein, l'Holocène, il y a 11 700 ans, et vous avez ici une schématisation de la Terre, hein, donc ça c'est la Terre, et ça c'est les grandes régions biogéographiques de la Terre. Chaque région a sa composition unique en poissons d'eau douce. Voilà, c'est un schéma pour illustrer ce qu'est la Terre aujourd'hui. Et en dessous, vous avez des phylogénies. Donc vous avez la phylogénie de la région A, la phylogénie de la région B, et la phylogénie de la Terre entière au milieu. Et donc je vais reprendre ce schéma, et je vais le décliner dans le temps, et puis après je vais le décliner sur le scénario 2. Alors, j'avance de 12 000 ans, on arrive à la période d'aujourd'hui. Sauf que les humains n'ont jamais existé. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 12 000 ans? Ben, pas grand-chose. En fait, c'est les processus naturels de spéciation et extinction. C'est assez lent, et du coup, il y aura probablement eu des changements, mais pas trop. Donc, par rapport au début de l'Holocène, s'il n'y avait pas eu d'humains, il n'y aurait pas eu énormément de changements normalement. Si on avance dans le temps, on avance dans 100 000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, du coup, là, c'est seulement les processus naturels de spéciation et extinction qui jouent. Et du coup, on va avoir des extinctions d'espèces, pas beaucoup, mais un petit peu. Des spéciations, pas beaucoup, mais un petit peu, des espèces qui vont apparaître. Et du coup, les phylogénies vont bouger un petit peu, mais pas trop. Mais du coup, ça nous donne un point de référence, une trajectoire potentielle que la Terre aurait suivi, que les phylogénies auraient suivi, s'il n'y avait pas eu les humains. Et maintenant, on va retourner au début de l'Holocène, et on va voir le scénario avec les humains. Donc, au début de l'Holocène, c'est la même chose. On est sur le même point de départ, avant que les humains se répandent sur toute la Terre et commencent à tout déplacer. Et on avance dans le temps, on avance à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Admettons que l'Anthropocène se soit accepté comme période géologique, on serait au début, en gros, de l'Anthropocène ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé des espèces. Poisson rouge, on l'a introduit partout. Perche-soleil, on l'a introduit partout. Et ça a causé des extinctions d'espèces. Donc, il y a des espèces qui ont disparu, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, du coup, ça a changé les phylogénies par rapport à ce qu'elles devraient être à l'état naturel. On a la phylogénie globale qui s'est raccourcie parce qu'il y a moins d'espèces à cause des extinctions. Et les phylogénies régionales, elles ont changé. Souvent, ça fait une augmentation régionale parce que les longueurs de branches sont plus longues. La diversité phylogénétique, c'est basé sur les longueurs de branches. On a introduit des espèces qui sont complètement différentes et donc ça fait des longueurs de branches plus longues. Donc ça fait une augmentation locale de diversité phylogénétique et une perte globale, une homogénéisation. Il y a moins d'espèces à l'échelle globale. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quand les sociétés humaines vont s'effondrer, d'ici, je ne sais pas, quelques dizaines ou centaines d'années, tout va s'arrêter. Et du coup, la biodiversité va reprendre son rythme naturel de spéciation et extinction. Eh bien, on va évoluer vers une autre trajectoire, en fait. C'est-à-dire que les lignées introduites, notamment les espèces invasives qui sont les plus abondantes, par exemple le poisson rouge, je ne sais pas, la perche soleil, ils vont commencer à se diversifier en fait et créer de nouvelles espèces. Donc ici, le poisson rouge, il peut avoir diversifié en poisson bleu, le perche soleil diversifié en perche lune, je ne sais pas. Mais en gros, ça nous amène à une structure qui est différente de la trajectoire naturelle. C'est-à-dire qu'on est en train en fait, d'altérer la trajectoire macroévolutive de la biodiversité et de la mettre sur des rails différents de ce qu'elle aurait été à l'état naturel. Et c'est ça la question que je pose. Est-ce qu'on se rend compte en fait de ce qu'on est en train de faire ici? Donc ça va être ma dernière diapo, ça va être quasiment que des questions, parce qu'on n'a pas la réponse à ces questions aujourd'hui, mais c'est de poser la question, quelles sont les conséquences futures de toutes ces introductions ? D'essayer de dépasser un petit peu ce qui se fait aujourd'hui dans la science, c'est plutôt étudier à court terme les effets des introductions sur les phylogénies, dépasser la simplification entre perte et gain de diversité phylogénétique pour réfléchir à la trajectoire future des phylogénies. Donc les lignées invasives, elles vont se diversifier forcément, et du coup, en les introduisant partout, est-ce qu'on n'est pas en train de sélectionner, sans nous en rendre compte, la biodiversité du futur ? C'est la question que je pose. En fait, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des nouveaux points de départ évolutifs que sont les lignées invasives ? Et ça va créer du coup de nouveaux clusters phylogénétiques. Ça va être quoi les taux de diversification pour ces lignées par rapport à si on n'avait pas fait tout ça ? En plus de ça, les invasions, ça cause des extinctions d'espèces natives. Donc ça veut dire qu'on va perdre des branchements uniques, donc perdre de l'originalité phylogénétique. Et du coup, est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur l'histoire évolutive de la biodiversité de toute la Terre, hein, avec un changement majeur de toutes les phylogénies suite à notre action, par exemple vers des phylogénies globales qui seraient plus compactes ? Et donc ça, c'est la question que je pose notamment à tous mes collègues scientifiques, c'est devons-nous réfléchir collectivement à ces divergences de trajectoires, sachant que ce sera forcément assez spéculatif, mais ça permet au moins de se rendre compte, c'est peut-être ça l'objectif. Et puis, derrière, poser la question éthique dans le débat public. Est-ce qu'on souhaite continuer à altérer la trajectoire macroévolutive de la biodiversité, ou est-ce qu'on doit agir pour limiter cette altération ? Parce que je pense que la réponse à cette question, elle n'est pas entre les mains des scientifiques, elle est entre les mains de tout le monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous ai remis les liens vers les logiciels libres ici.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.